C'est un personnage qui est pas à sa place, un personnage qu'on pourrait détester. Moi, c'est l'un de mes personnages préférés. C'est l'ambitieux, c'est l'insatisfait, celui qui n'est à sa place nulle part et qui, malgré tous ses succès, sera toujours isolé. C'est Rastignac, si vous voulez, qui est encore aujourd'hui, dans le langage commun, cet arriviste forcené qu'on regarde comme un suspect. C'est ce héros qui fait tout pour changer de condition, de corps, de carrière toute tracée, mais qui vient irrémédiablement s'écraser contre la réalité. Celui qui refuse la place qui lui est assignée, mais qui n'en trouvera pas de meilleur. C'est là toute la cruauté. Celui qui embrasse Paris, mais qui ne sera jamais vraiment chez lui. C'est Rastignac, c'est Bel Ami, c'est Édouard Louis aujourd'hui, c'est Julien Sorel dans Le Rouge et le Noir. Tous ces transfuges de romans d'apprentissage à qui il est toujours rappelé qu'ils n'appartiendront jamais au monde qu'ils ont conquis. Julien Sorel, par exemple, sera toujours à l'écart depuis ses rêves de Bonaparte, de femme, de Paris, jusqu'à sa peine de mort. Il sera toujours inadapté, il sera toujours en train de jouer pour se faire accepter le rôle de quelqu'un qu'il ne sera jamais. Et il ne faut pas se tromper, c'est justement le fait de ne pas être à sa place qui le rend intéressant. Le fait qu'il trébuche, le fait qu'il tombe, le fait qu'il soit maudit. À un moment, Stendhal a cette phrase terrible. Jamais il ne fera un bon prêtre ni un grand administrateur. Les âmes qui s'émeuvent ainsi sont bonnes tout au plus à produire un artiste.
Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue. Dans Boomerang, mon invité d'aujourd'hui s'est fait une place, et pas des moindres, aussi bien au cinéma, chez Sautet, Zidi, Blier, Corneau, qu'au théâtre, sous la direction de Roger Planchon, Jean-Claude Grimbert ou Patrice Chéreau, mais aussi à la télévision. Elle a su imposer son inimitable gouaille, sa présence à la fois fragile et puissante. Dans le théâtre de ma vie, elle se raconte par le menu, et elle revient sur une vie de combat, de rencontres et de mots. Bonjour Myriam Boyer.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous.
Je suis ravie.
Ce matin, où est-ce que vous sentez à votre place, vous ?
Sur un plateau, voilà, au cinéma, au théâtre, à la télévision, là c'est bon.
Eh oui, je vous pose la question parce qu'à vous lire, Myriam Boyer, c'est comme si vous aviez toujours souffert d'un sentiment d'exclusion. De quoi, alors même que vous êtes une actrice reconnue, récompensée, décorée, vous sentez-vous exclue ?
Ça, j'ai trimballé ça toute ma vie, depuis le premier jour, depuis toute petite, à l'école, partout. Et je sentais une différence, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui me lâche pas, même à 70 ans, c'est toujours pareil.
Mais ce sentiment d'exclusion, d'où il vient ? De quoi il est né ? Quelle en est l'origine ?
Vraiment, c'est vraiment le milieu, parce que vous vous en rendez compte, il y a quand même quelque chose, on n'est pas à l'aise. Jamais quelqu'un a pu venir chez moi et me parler. Je ne sais pas, il y a quelque chose où vous vous sentez en dehors. Dans la cour de récré, hein, tout le temps. Ça a toujours été quelque chose. Et ce n'est pas de la parano. Hein.
Non,
c'est du vrai, c'est du vécu.
Et c'est intéressant, parce que vous écrivez que la pauvreté, la violence, le dénuement de votre jeunesse ont justement été la clé de votre artisanat, la clé de voûte de cet artisanat. Qu'est-ce que vous voulez dire ?
Alors, je m'en suis servie. Ça, par contre, c'est pour ça que je dis que je suis à l'aise sur un plateau, parce que c'est ce qui a fait la comédienne que je suis. Et je pense que j'ai aussi une différence à cause de tout ça.
Vous voulez dire que ça vous a orienté vers certains rôles aussi ?
Sans doute, en tous les cas, les réalisateurs, enfin, ce que j'ai abordé après moi-même, quand je me suis battue pour monter des projets, vous savez, il y avait toujours quelque chose où je voulais montrer ces gens, je voulais en parler, je trouvais qu'on n'en parle pas bien. J'aime pas le mot revanche, mais quand même, il y a quand même un petit côté comme ça dans mon travail.
Votre enfance, Myriam Boyer, vous écrivez aussi qu'elle a été marquée par la peur, une peur constante. De qui, de quoi aviez-vous peur ?
Pardon. Au début, c'était mon père. J'ai eu très peur de mon père. J'avais des raisons parce qu'il était violent, mais il a jamais levé la main sur moi. Donc, c'était pas direct, hein. C'est une peur par rapport, évidemment, à la Berthe, à ma mère. Et j'ai assisté à des scènes de violence. Et donc, j'ai vécu dans la peur. J'ai vécu dans la peur. En plus, c'est vrai que, la Berthe m'a un petit peu élevée un peu comme ça aussi. Elle me parlait un petit peu de la vie, des hommes, tout ce qu'elle avait un peu subi. Et puis, elle a eu de courage, hein, puisque divorcer dans les années 50, prendre ses gosses sous le bras, trois mômes, et puis partir, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de femmes à cette époque-là qui ont eu cette force. Donc, j'aurais pu me nourrir de ça et puis sortir de ma peur, puisqu'on était en dehors, mais non. Après, j'ai eu peur de beaucoup de choses. J'ai eu peur de tout. J'avais peur. J'ai jamais pu rester dans une pièce toute seule.
C'est vrai que le destin de votre mère est incroyable. Cette femme, ouais, qui s'est battue contre les violences conjugales dont elle était victime, au risque de s'exposer, vous le racontez, au sarcasme des policiers qui ne la prenaient pas au sérieux. Une femme qui a réussi à divorcer, à obtenir votre garde à une époque où ça n'arrivait pas. Et dans quelle mesure les combats de votre mère ont contribué à l'éveil de votre conscience politique féministe, Myriam Boyer?
Bien, l'exemple, hein, quand vous vivez avec quelqu'un de courageux, et puis elle avait sûrement l'envie que ça se passe pas pour moi pareil. Alors tout de suite, j'étais au courant que fallait pas se laisser faire, qu'il fallait être indépendante, qu'il fallait que je gagne ma vie, qu'il fallait il fallait pas attendre de personne, ni d'un homme, mais ni de personne. C'est quelque chose que j'ai compris tout de suite. Et d'ailleurs, j'étais toujours en train de lui dire quand elle pleurait, comment va-t-elle. Et ici, je lui disais toujours, non mais t'en fais pas ma Berthe, on va trouver une solution. Je savais pas laquelle, hein, mais ça la rassurait. Et moi, je crois que je me rassurais beaucoup. Et ça m'a donné tout le temps. D'ailleurs, ce métier, quand vous arrivez à Paris, hein, c'est pas de la tartane d'arriver de la province. J'ai beaucoup de copines, de copains qui sont redescendus à Lyon. Ils ont pas pu tenir. Et c'est vrai que c'était dur. C'est vrai que c'est dur. On n'imagine pas arriver dans les années 60, fin 60 à Paris, c'était vraiment dur. Donc, j'avais l'impression que j'ai conquis quelque chose, quoi.
Hein, c'est la question que je me suis posée tout au long de la lecture de ce livre, en fait. Est-ce que c'est facile d'être soi-même dans un milieu comme celui du cinéma et du théâtre? Un milieu où les comédiennes, particulièrement, sont soumises à un certain nombre de normes, d'injonctions, de codes, de violences?
Oui, j'ai jamais lâché. J'ai jamais lâché cette force dont je vous parle, petite et qui a grandi avec moi. J'ai jamais lâché.
Mais il y a un prix à payer, Myriam Boyer, non?
Oh oui, et puis tout le temps, ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. C'est très très violent. D'ailleurs, je le raconte dans mon livre. Ceux dont on pense qu'ils ont réussi, entre guillemets, il y a une douleur qui est encore pire.
Et quand on prend la parole, il y a un prix à payer aussi pour dénoncer, par exemple.
C'est affreux, ça. On paye très 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 cher.
On est exclu, et je pense évidemment à la manière dont Nils Sarstrup, votre partenaire de scène, dans Qui a peur de Virginia Woolf en 1996, et dont vous subissiez les accès de violence, a fait en sorte que vous soyez licencié de la production. Et bien que par la suite vous ayez gagné au prud'homme, vous avez été discrédité. Aujourd'hui, quel regard est-ce que vous portez, justement, non pas sur cette affaire, mais sur la manière dont la parole des femmes est écoutée et prise en compte?
Alors, je trouve que dernièrement, on nous a fait du bien. Et d'ailleurs, chez vous, quand Sarah Forestier a même parlé de ce problème, de ce qui m'était arrivé, c'était la première fois que j'entendais une jeune comédienne, ou même une comédienne tout court, ou un comédien, parler de ce problème, de ce qui s'était passé, le licenciement. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Vous avez l'impression que vous allez vous réveiller. C'est pas possible.
C'était au lendemain des Césars, dans cette émission, quand effectivement Sarah Forestier était venue pour parler d'un système de domination et de violence constante. Et elle vous avait pris comme exemple.
Voilà. Et c'est la première fois que je l'entendais. D'habitude, j'avais toujours l'impression que j'étais toute seule, j'en parlais toute seule. Et là, franchement, ça m'a fait un bien. Et d'ailleurs, ça montre que ça a changé. Et on ne pourra plus. Qu'on ne pourra plus faire ce qui s'est passé. Ça ne pourra plus se passer.
Mais la vérité, c'est que vous ne parliez pas toute seule, Myriam Boyer. Parce qu'en réalité, on vous écoutait. Est-ce que ce n'est pas aussi un peu grâce à vous, grâce à celles qui, comme vous, ont parlé, qu'on avance?
Alors, je sais pas. En tous les cas, on n'a pas l'impression. Quand on parlait à ce moment-là, on n'avait vraiment pas l'impression. Je trouve que justement maintenant, oui, mais à ce moment-là, on n'avait pas l'impression. C'était normal. C'est fou, hein. C'était normal. Mais même à l'époque de ma mère, un homme qui tape sur sa femme, c'était presque normal. On avait de la chance quand on n'était pas avec un alcoolo et puis qui tapait pas. C'était presque à l'inverse. C'est quand même dingue. Donc je parle dans des milieux, dans des petits milieux, hein. C'est quand même incroyable. Donc vous imaginez le travail qui a été obligé de se faire pendant toutes ces années et de vivre nous-mêmes à travers tout ça, quoi.
Le cinéma, les rôles que vous avez choisis, c'est une façon de répondre à ça aussi, de faire de la politique.
Ah oui, oui, j'ai toujours eu, je me retourne là avec mon bouquin, et c'est vrai que je regarde et je me dis quand même, oui, oui, ça a quand même vraiment, tout ce que j'ai joué, tout ce que j'ai, les gens que j'ai rencontrés, il y a un endroit où j'ai pas d'humilité à dire que je les ai mérités. Oui, carrément, je les ai mérités, un après l'autre, et je pense que j'ai eu les meilleurs, hein. À la télé, j'ai travaillé avec les meilleurs, Lorenzi, Crière, tout ça, oui. C'était vraiment les meilleurs réalisateurs à cette époque-là. Au théâtre, pareil, Gruber, Chéroux, Lavelli, les plus grands, les auteurs n'en parlons pas, parce qu'alors là, la chance de rencontrer Coltès, et vous savez, j'ai joué 3 pièces de Coltès, dont 2 créations, ce qui est dingue. Combat de nègres et de chiens, on savait pas qui était Coltès, ce que ça allait faire, ce que ça. Et maintenant, il n'y a pas un cours, il n'y a pas une entrée dans un théâtre, dans un, où il n'y a pas un élève qui passe un texte de Coltès. Et ça, c'est fabuleux. Quand vous avez été à la naissance, c'est merveilleux.
On y reviendra évidemment. Mais d'abord, vous savez que dans cette émission, il y en a une qui a aucun mérite. C'est évidemment la culture et son actualité extrêmement privilégiée. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, jeudi 16 septembre?
J'aime le théâtre, avec sa poussière, ses excès, son tremblement, les jours de grande première. Mais tant qu'il y aura une bicoque théâtrale où je pourrai être actrice, souffleuse ou habilleuse, je ne serai pas seule et je ne serai pas totalement malheureuse.
Marthe Mercadier quitte la scène, surnommée la reine du théâtre de boulevard. La comédienne s'est éteinte hier, elle avait 92 ans. Ancienne enfant bègue, résistante, elle avait fait ses premiers pas au théâtre comme souffleuse avant de fouler les planches à la fin des années 40. De Feydeau à Marcel Aimé, elle avait joué dans près d'une 50aine de pièces, donné la réplique au grand Galabru, Crémer de Funès. Durant quelques mois, au début des années 70, Marthe Mercadier avait aussi dirigé le théâtre du Vieux Colombier.
I describe myself as an artist living in Johannesburg. Who makes drawings, and sometimes the drawings are filmed and become animated films.
Des bons, des biens, des beaux-arts, double élection pour l'honorable Académie du Quai de Conti. Lors de sa séance plénière d'hier, l'institution a élu le très prolifique et politique artiste sud-africain William Kentridge. Tout à la fois dessinateur, graveur, sculpteur, cinéaste, acteur, metteur en scène, il a été intronisé membre associé étranger. Dans le même temps, le plasticien français Patrick Poirier a été élu correspondant de la section sculpture. Il secondera les travaux de 7 membres de celle-ci, notamment sa compagne Anne Poirier, mais aussi Brigitte Terzieff ou encore Jean-Michel Autoniel.
La vie d'un homme sur 50 ans. Rendez compte, tout ce qui peut arriver en 50 ans. Rendez compte tout ce que vous allez voir.
Bébel éternel, en hommage à l'acteur disparu le 6 septembre dernier, le cinéma Mercury à Nice a décidé de se rebaptiser Cinéma Art et Essai Jean-Paul Belmondo. Ouvert en 1911, la salle est la plus ancienne de la ville, connue des amateurs de 7e art de toute la région pour sa programmation éclectique et pointue. Cet hommage s'accompagne en centre-ville d'une grande expo en plein air proposée par le photographe Charles Bébert, réunissant une série de clichés de Belmondo en tournage sur la Côte d'Azur, notamment pour le film Flic ou Voyou tourné dans les rues de Nice. C'est magnifique, qu'est-ce que vous l'avez ? Et enfin, Happy Drizzy, le rappeur canadien Drake n'en finit plus d'aligner les records grâce à son nouvel album Certified Lover Boy. Après avoir réalisé le meilleur démarrage de l'année en écoulant plus de 600 000 exemplaires de celui-ci en une semaine, Drake vient de placer pas moins de 9 morceaux dans le top 10 du classement Billboard des chansons les plus populaires aux États-Unis, faisant voler en éclats le précédent record en la matière détenu par un certain Michael Jackson, Janet Jackson et Bruce Springsteen. Sur la première marche du podium, le tube tonique Way Too Sexy, on dit oh oui. Et la comédienne Myriam Boyer, invitée de Boomerang ce matin pour revenir sur une vie de planche et une vie de pellicule. Myriam, quand est-ce que vous avez découvert l'existence du cinéma ? Vous vous souvenez ?
Oula, oui, parce que j'allais avec ma petite pièce, c'était 100 francs. Ancien, oui. C'était à Saint-Bruno, à côté. Et là, j'allais tout voir. J'allais voir tout. Donc c'était genre Sissi, genre les 10 commandements. J'ai tout vu toute petite.
Et avec votre père, vous alliez au cinéma aussi.
Alors j'allais voir justement ce qui était extraordinaire, c'est qu'il m'emmenait voir les films avec Eddie Constantine.
Ah oui.
Oui. Et on allait voir à tout casser. Pas à tout casser, c'est plus tard. On allait voir les fameux films. Ça va barder. Et tout ça. Et il adorait ça, et c'est marrant parce que j'ai rencontré plus tard le réalisateur. de ces films-là. John Berry.
Mais pour autant, trop... devenir comédienne, c'était pas vraiment dans vos projets, même enfant.
Oh non, 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 non. Là, c'était vraiment de, quand on allait voir Les Misérables avec Gabin et tout, c'était vraiment le dimanche après-midi, voilà. Mais alors... Et puis après, quand je rentrais, je racontais tout à ma maman pendant qu'elle faisait la valise pour repartir.
Mais par quel hasard avez-vous découvert ce que c'était que de jouer la comédie?
Alors, le hasard. Alors ça, c'est complètement le hasard, puisque c'est vraiment... C'est sincère. J'ai vu de la lumière, je suis rentrée. Hein. C'est vraiment... C'est sincère. Ça s'est pas passé autrement.
Dans un théâtre?
Il y avait un grand théâtre à côté, dans la grande rue de la Croix-Rousse. Et ça s'appelait le Théâtre de la Croix-Rousse.
À Lyon.
Voilà, à Lyon. Et la directrice était Gisèle Tavey, une femme de Paris qui était montée faire de la décentralisation avec Jean Astaire et montait des trucs comme à Arabat, le Fando Ellis, enfin des pièces d'Ada, Raymond de Sey, des trucs, des auteurs, c'était costaud.
Mais alors, vous avez vu de la lumière, vous avez poussé la porte, qu'est-ce qu'il y avait derrière la porte?
Eh ben, elle, il n'y avait personne, et elle sort du bureau, elle me dit, vous cherchez quelqu'un? Je dis, non, non, je regarde. Elle me dit, vous voulez prendre des cours d'expression corporelle? Je m'ai entendu parler de ça, je lui dis, ben, j'ai pas de sous. Elle me dit, ben, revenez voir, et puis on s'arrangera. Et je suis revenue, et puis quelques temps après, comme je travaillais dans une bijouterie, et j'empaquetais avec de la cire à cacheter. J'ai eu un accident du travail et je me suis renversée la cire à cacheter sur la main. J'ai eu une greffe, donc 5 mois sans travailler. Et où j'étais? Au théâtre.
Alors c'est fou, parce qu'il a suffi de ces hasards, en fait, pour que vous décidiez du jour au lendemain de quitter Lyon pour Paris et de passer le concours de la rue Blanche. Vous n'aviez peur de rien, Myriam Boyer?
Ah non, j'avais un culot d'enfer. Et puis, je risquais rien. Je risquais rien. Contrairement à d'autres, qu'est-ce qui pouvait m'arriver que du mieux? De toute façon, j'avais rien. Donc, de toute façon, moi, habiter comme on habitait, vraiment le petit hôtel, l'hôtel du Vallon à Pigalle. Enfin, c'était vraiment, pour moi, c'est vraiment, j'avais tout à gagner.
Et les cours de théâtre, vous n'y restez pas longtemps, parce qu'après, un an après votre arrivée à Paris, vous avez mis au monde votre premier enfant, qui est devenu l'acteur que l'on connaît, Clovis Cornillac, et il a fallu gagner votre vie et vous raconter que vous avez alors fait l'expérience de ce que vous appelez les couloirs de la honte.
C'est pas moi qui l'appelle. On l'appelait, tout le monde, c'était connu. Alors le couloir de la honte, parce qu'il n'y avait pas des castings et des voilà tout ça, donc c'était un couloir avec tous les bureaux des réalisateurs, et à l'intérieur du bureau, il y avait un assistant qui recevait les acteurs, on faisait la queue devant chaque bureau. Et j'avais mon petit book sous le bras, ma casquette, mes taches de rousseur, je rentrais et je disais, vous n'avez pas besoin de quelqu'un comme moi, je montrais les photos. Alors de temps en temps, j'ai commencé avec une ligne, 2 lignes, 10 lignes, on était payé à la ligne. Alors, et c'est comme ça, mais l'assistant était sur le plateau, donc il avait intérêt à avoir la bonne personne. Et c'est comme ça que j'ai pu rentrer dans ce métier.
Et ça a fini par payer, effectivement, rapidement. On vous a remarqué au théâtre, au cinéma, chez Jacques Demy, Jean-Pierre Mocky, Claude Sautet ou encore Claude Zidi. Tous ces rôles sont aussi des rencontres, et parmi elles, il y en a une qui, je le sais, vous a marqué, c'est une rencontre avec un certain Patrick Devers dans Série Noire d'Alain Corneau. Du travail avec lui, quel souvenir est-ce que vous gardez de Patrick Devers?
C'est marrant parce qu'il avait dit qu'il m'appréciait beaucoup comme partenaire. Je peux dire que c'était vraiment réciproque. Je crois que j'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça. Mais faut dire aussi que c'était un film sans argent. Peut-être autrement, c'était pas moi. Mais là, on était dans une pièce tous les deux entre les plans, et il n'y avait pas de maquilleur, il n'y avait rien. Donc, vous n'avez pas quelqu'un entre vous. Ce qui fait qu'on était tous les deux. Il me séchait ma robe de chambre pour la scène de la baignoire, là. C'était lui qui séchait. Moi, je lui arrangeais ses cheveux qui commençaient à perdre là derrière. Donc, ça donnait une relation complètement rare. J'ai jamais vécu ça. Et en plus, avec quelqu'un comme ça.
Oui, ce sont des pages merveilleuses de votre livre, mais vous parlez aussi de sa descente aux enfers, de sa mise à l'écart par les gens du métier, de son suicide, de ce parcours si difficile, si tragique. Quelle leçon est-ce que vous avez tirée, vous?
C'est terrible parce que pour moi, il était sa génération, et on en a perdu beaucoup. Beaucoup, par la drogue, après par le sida. C'est assez curieux, comme c'est un moment où il représente complètement sa génération. Il y a quelque chose qui était cassé, mais il n'était pas le seul. Donc, quand on parle de cette époque-là en disant merveilleux et tout, je suis pas sûre. Je suis pas sûre, et ça m'a, il n'y a pas que lui, ça m'a bouleversée, mais lui encore plus, évidemment.
Ce sont des sacrifiés, à vous entendre.
Oui. C'est, je reste avec quand même une grande tristesse. Quand à 30 ans, vous ne pouvez plus continuer, il y a quelque chose, c'est quand même bizarre.
Comment vous y avez échappé, vous, à ça?
Oh bah parce que moi, ce n'était pas possible. J'étais tellement dans un truc d'avancer, de pouvoir bouffer, de m'occuper de Clovis, de la vie. Et puis tout me souriait. Moi, pour moi, dès que j'ai commencé avec une ligne, je n'attendais pas d'en avoir deux. J'en ai eu deux. Mais c'était quelque chose où j'avançais. Je suis toujours, quand après j'ai monté mes pièces ou bien alors j'ai mis de l'argent dans le cinéma... avec la mère Christine, ou toujours j'ai avancé, toujours j'ai été au charbon, je
sais. Mais alors, quand on regarde en arrière, comme aujourd'hui, ça doit faire bizarre, Myriam Boyer, non ?
Ah ouais. Et alors là, peut-être, pour la première fois, je prends le temps de me retourner, j'ai pris le temps en écrivant le livre, et y a une certaine fierté, je peux le dire.
Ouais. Bien sûr, vous pouvez le dire.
Ouais, une certaine fierté.
Et si vous deviez tout recommencer, vous recommenceriez ?
Tout pareil. Je changerais rien du tout.
Vous savez, on va reparler de tout ça, évidemment, juste après un titre que vous nous avez soufflé. C'est un titre de Mouloudji, qui chantait Le Mal de Paris en 1951. Vous êtes sur France Inter avec Myriam Boyer. Vous écoutez Boomerang, évidemment.
J'ai le mal de Paris, de ses rues, de ses boulevards, de son air est triste et gris, de ses jours et de ses soirs. Et l'odeur du métro me revient aussitôt que je quitte mon Paris pour des pays moins gris. J'ai le mal de la Seine qui écoute mes peines, et je regrette tant les quais doux aux amants. J'aime me promener dans tous les beaux quartiers, voir au Palais Royal les filles à marier, traîner à Montparnasse de café en café, et monter à Belleville tout en haut de la ville pour la voir en entier. J'ai le mal du pays quand je suis loin de Paris. Me prend le vague à l'âme, j'ai le cœur qui s'ennuie. Je rêve à cette dame dont les toits épanouis autour de Notre-Dame font des vagues infinies. J'ai le mal de la nuit, de la nuit de Paris. Quand les filles vont et viennent à l'heure où moi je traîne, j'ai le mal des saisons qui poussent leur voiture dans les rues de Paris et changent sa parure. Le printemps va gaiement, les arbres sont contents, puis l'été se promène, c'est dimanche toute la semaine, les feuilles tombent blêmes. J'ai le mal de Paris durant les jours d'hiver, c'est gris et c'est désert plein de mélancolie. Oui, j'ai le mal d'amour et je l'aurai toujours. C'est drôle mais c'est ainsi, j'ai le mal de Paris.
France Inter, Boomerang, OK. Augustin Trapenard.
Vous savez, c'est un genre de fée, quelque part entre la fée marraine de Cendrillon, Pimprenelle et ma sorcière bien-aimée avec son nez en trompette et frétillant, son regard bénédiction, cette générosité qui émane du moindre geste, de la moindre parole, du moindre clin d'œil. On a envie qu'elle nous prenne dans ses bras pour nous raconter une berceuse, colle à mon petit frère, un truc dans le genre, avec sa veste. Et cru, ce matin, Myriam Boyer, invitée de Boomerang, pour parler de rôle, de scène, de théâtre. Parce que j'ai l'impression quand même que le théâtre vous a offert de plus grands rôles, que ne vous en a jamais offert le cinéma. Par deux fois, vous avez été récompensée par le Molière de la meilleure comédienne. Qu'est-ce que vous ressentez, Myriam, quand vous êtes dans votre loge, que vous êtes en train de vous maquiller, que vous regardez le costume que vous vous apprêtez à enfiler, et que vous savez que vous allez entrer sur scène?
Alors, je le raconte dans mon film, puisque c'est pendant que j'étais en aérium et tout, on n'avait pas nos affaires. Et le dernier jour, on avait la robe avec la nôtre. Et puis, la mienne, elle était pas mal, parce que la Berthe, elle cousait vraiment bien. Alors, on avait toute une journée comme ça, avec sa robe. Et on était là, la partante, ça s'appelait. Elle est partante. Et pour moi, maintenant, dans ma loge, avec mon costume sur le cintre, je suis partante. Et le mot est magique et me donne l'envie d'y aller.
C'est intéressant parce que ça veut dire que monter sur scène, c'est aussi renouer avec quelque chose de l'enfance, toujours chez vous.
Toujours. Mais je pense que beaucoup, beaucoup d'acteurs, ça s'appelle jouer. On fait semblant. On va faire pour du semblant. Quand on est petit, on dit, on va faire pour du semblant. Alors toi, tu seras... Eh ben, c'est ce qu'on fait, nous, on en vit, c'est formidable.
Et que devient le temps une fois qu'on est sur scène, une fois qu'on joue? On y pense.
Bah encore quand on parlait de trouille, bah c'est celle-là de trouille maintenant. j'ai eu toutes les trouilles, bah celle-là et maintenant j'ai celle-là et elle me quitte pas hein. Mais elle est assez confortable en même temps parce que j'arrive à la tenir, à l'amener d'un côté, de l'autre et je m'aide aussi avec ça. Mais c'est d'abord la trouille.
Vous avez pas peur là?
Maintenant ça va mieux mais enfin quand même.
Parce qu'on va l'abolir, la peur, on va abolir le temps aussi, avec les mots de l'un de nos plus grands auteurs de théâtre, ceux de Bernard-Marie Coltès que vous citiez, qui ont beaucoup compté dans votre parcours de comédienne, les mots de Coltès que vous avez si souvent joués, Myriam Boyer, dans Combat de Nègres et de Chiens, dans Roberto Zucco, ou encore dans Le Retour au désert, c'est le moment de les faire entendre. Pour terminer cette émission, vous avez choisi de nous lire un extrait de Retour au désert. On vous écoute.
C'est le monologue de Mathilde, et j'ai toujours beaucoup, beaucoup de plaisir à le jouer. La vraie tare de nos vies, ce sont les enfants. Ils se conçoivent sans demander l'avis de personne et après ils sont là. Ils vous emmerdent toute la vie, ils attendent tranquillement de jouir du bonheur auquel on a travaillé toute notre vie et dont ils voudraient bien que l'on n'ait pas le temps de jouir. Il faudrait supprimer l'héritage. C'est cela qui pourrit les petites villes de province. Il faudrait changer le système de reproduction tout entier. Les femmes devraient accoucher de cailloux. Un caillou ne gêne personne, on le recueille délicatement, on le pose dans un coin du jardin, on l'oublie. Les cailloux devraient accoucher des arbres. L'arbre accoucherait d'un oiseau, l'oiseau d'un étang, des étangs sortiraient les loups, et les louves accoucheraient et allaiteraient des bébés humains. Je n'étais pas faite pour être une femme. Mais je n'étais pas faite pour être un homme non plus, encore moins. Peut-être. Ils sont trop cons. Les hommes entre eux savent être des copains. Quand ils s'aiment bien, ils s'aiment bien. Ils ne se tirent pas dans les pattes, d'ailleurs. C'est parce qu'ils sont cons qu'ils ne se tirent pas dans les pattes. Ils n'y pensent pas. Il leur manque un ou deux étages par rapport à nous. Parce que les femmes, lorsqu'elles sont amies, elles se tirent gaiement dans les pattes. Elles s'aiment. Et parce qu'elles s'aiment, tout le mal qu'elles peuvent vous faire, elles vous le font. C'est à cause des étages supplémentaires dans leur tête. Ne dites jamais à quelqu'un que vous avez besoin de lui ou que vous vous ennuyez de lui, ou que vous l'aimez. Parce qu'alors, il pense tout de suite que c'est une raison suffisante pour se croire arrivé, pour prétendre porter le pantalon, pour s'imaginer tenir les rênes, pour prendre des airs de petit malin. Il ne faut jamais rien dire, rien du tout, sauf dans la colère. Qu'alors, on dit n'importe quoi. Mais lorsqu'on n'est pas en colère, comme moi maintenant, et à moins d'être une fichue bavarde, il vaut mieux se taire.
Les mots de Bernard-Marie Coltès, Myriam Boyer, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'il raconte pour vous, ce texte-là?
Beaucoup de choses. Quand je l'ai appris au moment de jouer, J'ai toujours eu du plaisir, du bonheur, et ça me raconte des choses intimes, parce que c'est la relation avec son frère. Alors donc la fratrie, c'est pas évident non plus. Puis c'était deux hommes, mes frères. Donc il y a tout ça dedans, et je trouve qu'il y a du Coltès, son rythme, ses mots, sa manière de voir le monde. Il était, vous savez, dedans, il parle aussi qu'un homme, bientôt un homme extraordinaire, ce sera un homme ordinaire. Et je trouve qu'il y a tout ça dedans. Il y a tout ça. Il y a quelque chose de simple et à la fois de tellement pensé. Et moi, c'est tout ce que j'aime.
Mais sur le silence, vous êtes du genre à vous taire, vous, Myriam Boyer?
Maintenant, plus. J'ai eu du mal et j'étais un petit peu trop rentre dedans. Mais après tout, par contre, alors après, ça vous fait du bien de vous dire que je me suis pas tue. Mais c'est bien. Même si maintenant c'est plus compliqué parce que je connais ce que ça fait après.
Et
les
dire,
conséquences.
Et à dire je t'aime, ça vous pouvez?
Ah, ça c'est dur ça. Ça, c'est dur. Je commence, mais c'est dur. Et puis, il est pareil, c'est des mots qui sont galvaudés. Alors, c'est affreux parce que quand vous êtes aux États-Unis, vous entendez John, chaque fois qu'il raccrochait à ça, n'importe qui, I love you. Il y a quelque chose comme ça, et du coup, je me dis, c'est pas possible. On peut plus sortir ce mot. On peut plus le dire vraiment.
Merci, Myriam Boyer. I love you. D'être venue faire un tour dans Boomerang. Merci pour les mots. Je rappelle que Théâtre de ma vie, votre autobiographie en collaboration avec la journaliste Hélène Rochette vient de paraître. C'est autant le témoignage singulier et touchant d'une époque qu'une déclaration d'amour au métier qui est le vôtre. C'est un livre super, tout de suite les médias. Sonia Devillers et son instant M, juste après ça. No friends in the industry, my brothers been my brothers, man, you niggas ain't no kidding me, a fact. Well, yeah, you heard about me, you don't know me more than that. Yeah, I know I, hey, yeah. No friends in the industry, my brothers been my brothers, man, you niggas ain't no kidding me, a fact. Well, I was known for snapping when I chat before the app. Stood on everything I said and never took it back. Whoa, no friends in the industry. I had to draw the line between my brothers and my enemies. A fact, niggas let us start a beat, don't wanna keep it wrapped. Yeah, you hit us up and now we owe you something back. See, I was young angel, but these niggas turn me evil. Yeah, I know you, but you really ain't my people. Yeah, I heard some people say they know him as my equal. Truth be told, I son these niggas, girl, I don't compete with them. Ask about the boy and they gon' say he got the streets with them. Niggas so offensive knowing they don't have no defense. Why they always act like we can face it with a meeting? All they linking up, man, I'ma see him when I see ya. Yeah. Yeah. Yeah, brothers been my brothers, man, you niggas ain't no kidding, that's a fact, ayy. And I'm like she carry smoke, I'm on and off the track, ayy. And you love that hoe with me, I put her on her back. You get drizzy on the track, here, put you on the map. Aw, oh, it's like that, hell yeah, it's like that, ayy. And I got a contract, it's a max, ayy. Since I got in contact, she attached. When I saw my first deal, that she came through a fax. That should let you know how long I've been out here running laps.
I've been doing it for a long time.
Yeah. No friends in the industry, my brothers been my brothers, man, you niggas ain't no kidding me, a fact. Whoa, I was known for snapping when I chat before the app. Stood on everything I said and never took it back. Whoa, no friends in the industry, I had to draw the line between my brothers and my enemies, a fact. Niggas let us start a beef, don't wanna keep it wrapped. Yeah, you hit us up and now we owe you something back. No friends in the industry, Drake. 9h40 sur France Inter et les médias avec Sonia Devillers. Ça va, Sonia?
Ça va, Augustin, ça va.
Il se moque de moi parce que j'ai fait un petit rap, là. C'est moi qui ai dit « No friends in the industry, Sonia ».
Il y a de quoi, Augustin, mais
oh
bon.
Non. Si. À demain.
Allez, salut, Augustin.